Après le pardon, je continue sur ma lancée. Un jour, la faute était vraiment tellement minime. Un jour, dans un hôtel, j'ouvre au hasard la Bible qui était dans le tiroir de la table de nuit et je lis cette espèce de devinette. Alors pardon si je vous la raconte un peu flou, la Bible était en anglais, ce qui pour moi est à peine plus accessible que l'hébreu. Ça donnait donc ceci. Quelle est à votre avis l'arme la plus blessante? Le couteau? La pierre? Le poing? Le coup de pied? Le bâton? Les dents? Ah, vous avez dit les dents, vous chauffez. C'est la langue. Oui, la langue est cette arme à double tranchant qui console mais peut blesser mortellement. Cette semaine, j'attendais une petite fille à la sortie de l'école. Je la vois traverser la cour à côté d'une autre petite fille, vêtue d'un manteau en fausse fourrure bleu vif flambant neuf. Comme elle s'approchait, j'entends celle que je venais chercher dire à l'autre « Ton manteau, il est trop affreux !» Sur le chemin du retour, je dis à ma protégée « Mais pourquoi donc lui as-tu dit une chose pareille ?» Si tu trouves que son manteau est vilain, ne lui en parle pas. Et là, elle me sidère en m'annonçant « Son manteau, il est trop beau !» Mais alors pourquoi l'avoir cassé comme ça? Parce qu'elle faisait sa fière. Je m'insurge, elle ne faisait pas sa fière, elle était comme nous tous, heureuse d'avoir un habit neuf qui lui plaisait. Pourquoi lui gâcher son plaisir? Parce qu'elle m'avait dit que mes Nike, c'était pas des vrais, c'était vrai que c'était pas des vrais. Nous y voilà. Je propose de remettre la balle au centre puisqu'il y avait un partout et de faire la paix. Il n'en a pas été question. Je n'ai plus revu cette petite, je ne faisais qu'un dépannage. Je ne suis pas sûre que les langues respectives se soient émoussées.
Bonjour, je m'appelle Massio, j'ai 5 ans et demi, j'habite à Nantes. Je voudrais savoir pourquoi les chevaliers font toujours la bagarre. Merci.
Patrick Boucheron, historien. Patrick Boucheron, écrivain. Savez-vous pourquoi les chevaliers font toujours la bagarre?
Mais parce que je pense qu'ils aiment ça d'abord. Et puis ils sont faits pour ça. C'est-à-dire que les chevaliers, ce sont des combattants qui, d'une certaine manière, gagnent non seulement leur vie, mais je dirais plus que leur vie, toute leur existence à être combattants. C'est ce qui les définit, c'est ce qui, en fait, les caractérise. Et quand ils font pas la guerre, ben ils jouent à l'affaire, c'est ce qu'on appelle un tournoi. Alors, oui, Massio, t'as raison, ils font la bagarre. Mais, en fait, ils sont pas bagarreurs, parce qu'ils n'ont pas intérêt non plus à s'entretuer. Lorsque on lit des romans de chevalerie, eh bien, on voit que leur bagarre, elle est très policée, elle est très ordonnée, elle est très codifiée, parce que ils sont entre eux et ils n'ont pas du tout envie de se faire mal. Et d'ailleurs, la bataille au Moyen Âge, c'est une sorte de rituel, davantage qu'une mêlée confuse. On cherche à se faire prisonnier. On cherche à avoir des rançons, on cherche aussi à faire des beaux gestes. Donc, c'est pas une bagarre de cour de récréation, la guerre chevaleresque. C'est plutôt comme une danse.
C'est pas un jeu non plus, c'est pas le football.
C'est pas loin d'être un jeu, parce que regardez les tournois, au fond, la manière la plus simple de se les représenter, c'est de dire qu'il y avait des équipes. Par exemple, l'équipe de France contre l'équipe d'Angleterre, il y a des équipes. Il y a des règles, régulièrement on se retrouve, il y a des spectateurs, on cherche à faire les beaux devant les dames. C'est pas très loin quand même d'un jeu. Mais quand on dit aujourd'hui l'esprit chevaleresque, ça veut pas dire la bagarre.
Non.
Ça veut dire au contraire se retenir. Ça veut dire, d'une certaine manière, avoir, une sorte de connivence. D'ailleurs, c'est comme tout. On se souvient des grands gestes et des heures glorieuses. Mais dans la vie des chevaliers, il y avait quelques faits d'armes et beaucoup de petits arrangements.
Patrick Boucheron, l'historien Patrick Boucheron, vous trouverez la référence de ses livres sur le site des Petits Bateaux. Et puis, vous l'entendez sur France Inter tous les dimanches à partir de 13h20 jusqu'à 14h dans Histoire 2. Et puis également le samedi soir sur Arte à 18h15 dans Faire l'Histoire. Dans Les Petits Bateaux ce soir, vous avez demandé comment on fabrique la couleur noire, pourquoi les requins sont méchants et pourquoi une neige légère et fine craque sous les pieds. Ces questions ont été posées au 01 56 40. 40, 43, 57.
Bonsoir madame, je m'appelle Alessia Anthony, j'ai 3 ans et demi. Je voudrais savoir quand on tire la chasse, ça passe où? Ça passe dans les égouts et après ça passe où? Merci, au revoir.
Bonsoir. Effectivement, c'est une question que je crois nous sommes nombreux à nous poser. Alors merci de l'avoir posée. Sophie Bénaud, vous êtes expert en traitement de l'eau et Alessie demande finalement où va l'eau des toilettes ?
Bonsoir, effectivement c'est une très bonne question. C'est vrai que quand tu tires chasse-chasse d'eau, ça part dans les égouts, donc dans des tuyaux qui sont assez petits en général. Après ça va dans de plus gros tuyaux et ça passe à la fin à la station d'épuration. Mais pour arriver à la station d'épuration, il y a quand même des intermédiaires, puisque l'eau va s'écouler de manière gravitaire, c'est-à-dire qu'elle est entraînée par la pente vers la station d'épuration. Et si la station d'épuration est un petit peu loin, ça suffira pas. Et donc, il y a des postes de relèvement qui sont entre la station d'épuration et les tuyaux, qui permettent de faire avancer l'eau, de la pousser jusqu'à la station d'épuration. Ces postes de relèvement, en fait, c'est tout simplement des pompes qui vont pousser l'eau jusqu'à la station d'épuration. Et en général, on met aussi des grilles pour retenir les plus gros éléments et éviter qu'ils viennent boucher les pompes. Et c'est très important, du coup, de ne pas jeter de lingettes dans les toilettes, puisque ces lingettes, elles pourront boucher les pompes et les grilles.
Ah! Ça, c'est une information. Donc, pas de lingette dans les toilettes, parce qu'elle ne se... Contrairement au papier toilette qui se défait, qui se dépiote, la lingette, elle ne se dépiote pas. Elle reste bien entière.
Voilà. Et elle bouche les grilles ou alors elle bouche les pompes. Et du coup, ça donne beaucoup de travail aux gens qui exploitent les réseaux, parce que c'est les réseaux, en fait, qui vont arriver jusqu'à la station. Il y a des gens qui les nettoient, qui les entretiennent, qui remontent les pompes pour pouvoir les déboucher quand il y a besoin. Mais si on met des lingettes, elles sont bouchées beaucoup plus fréquemment qu'elles ne le devraient.
Donc, pas de lingette. Donc, pour te répondre, Alessie, l'eau va d'abord dans un endroit où on va enlever les gros morceaux, grâce à la grille, lui donner un peu d'élan pour aller jusqu'à la station d'épuration. À la station d'épuration, qu'est-ce qui se passe ?
Et à la station d'épuration, on a encore des grilles pour retenir encore les éléments les plus gros. Et ensuite, on a différents types de traitements pour pouvoir éliminer toute la pollution qu'il y a dans l'eau. Alors cette pollution, elle est soit solide, donc par exemple toutes les choses qui flottent, mais elle peut également être dissoute. Dissoute, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, elle est dans l'eau, comme le sel qu'on a mis dans l'eau. Et cette pollution dissoute, elle est très mauvaise pour les milieux aquatiques. Donc du coup, on va la traiter dans les stations d'épuration avec différents types de traitements.
Quand vous dites milieu aquatique, c'est-à-dire qu'elle est mauvaise pour les plantes et pour les animaux ?
Et pour les poissons dans les rivières, oui.
Donc on ne renvoie pas de l'eau dans les rivières ou dans la mer avant de l'avoir traitée ?
Oui, enfin du moins en France.
Ça dure combien de temps entre le moment où l'eau arrive dans une station d'épuration et où cette même eau repart ?
Ça met à peu près un jour le trajet de la goutte d'eau. Entre l'entrée de la station et la sortie de la station. Après, ça va dépendre bien sûr de la taille de la station, parce que plus on est dans une grosse ville, plus on a une grosse station, et plus on a des traitements complexes. Dans les campagnes, on peut avoir des plus petites stations avec des traitements un peu plus simples et moins poussés. Ça dépend aussi du milieu récepteur, en fait, du milieu dans lequel on va remettre l'eau. Si c'est un milieu qui est très sensible, une petite rivière par exemple, on va faire des traitements plus poussés que si on remet dans la Seine ou dans le Rhône, qui sont des plus grosses rivières et qui peuvent absorber un peu plus de pollution.
Sophie Bénaud, l'eau, une fois qu'elle est entre guillemets nettoyée, elle repart forcément dans une rivière ou dans un fleuve ou dans la mer ? Elle peut pas repartir, je sais pas, dans la terre ?
Principalement, elle repart dans une rivière, dans un fleuve ou dans la mer, mais il arrive aussi parfois qu'il n'y ait pas de rivière à proximité de la station d'épuration, et dans ces cas-là, on peut l'infiltrer dans le sol. On la renvoie dans des bassins d'infiltration.
Le mieux est donc de ne mettre que du papier dans les toilettes, parce que même ce qui est censé se dépioter n'a pas forcément le temps de se dépioter avant d'arriver à la station d'épuration. C'est la première fois que Sophie Bénaud vient au Petit Bateau, et merci, parce que nous l'avons trouvée bien intéressante.
Tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras. Tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil, à
le joli forçat et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil et tu verras, tu verras. Je crèverai le sommier, tu verras, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tu verras. Tout recommencera, tu verras, tu verras. Le diable est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai le voyou, tu verras, tu verras. Je boirai comme un doux et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras, contre toi, contre tous et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera. Car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras. Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras.
Est-ce bien la peine de vous dire que vous venez d'entendre Claude Nougaro, tu verras.
Les petits bateaux sur France Inter.
Des enfants posent des questions, des enfants petits et grands, et nous, nous trouvons des savants pour leur répondre. Ce ne sont pas forcément des questions d'actualité, ce sont des questions tout terrain. Ça peut être des questions de saison.
Bonjour, je suis Gérard, j'ai 60 ans et encore des questions. Ce matin, il neige, je sors le chien et la neige craque sous mes pas. Peut-on expliquer qu'une neige légère et fine, si douce, craque sous nos chaussures ? Merci.
Ah, alors là, bonsoir Gérard. Ça, c'est une question poétique et physique en même temps. Nous avons fait appel à un physicien, chercheur en physique de la neige. Vous dépendez, Samuel Morin, du CNRS et également de Météo France. D'ailleurs, le CNRS vous a donné la médaille de bronze en 2017. C'est étonnant, cette remarque de
c'est
Gérard.
C'est une question très intéressante de Gérard, ouais, qui nous interroge sur la nature même de la neige. En fait, la neige, c'est un agrégat ou un matériau poreux, il y a plusieurs façons d'en parler, de glace, de cristaux de glace qui s'empilent les uns sur les autres au cours des chutes de neige, et d'air, donc c'est un matériau poreux, c'est un matériau qui a une certaine capacité de compaction au cours du temps, alors soit spontanément, soit quand on marche dessus, et quand on marche dessus, finalement on va briser les petits ponts de glace qui existent entre les cristaux, et donc c'est probablement ça qu'on entend quand on marche sur la neige.
Le crissement.
Et le crissement, il dépend finalement du type de neige auquel on a affaire. C'est-à-dire qu'une neige très légère, très dense, ça va être une neige qui va contenir beaucoup d'air, et un enchevêtrement relativement peu dense de cristaux, et donc beaucoup de ruptures de glace entre les cristaux, et beaucoup d'air à expulser du manteau neigeux. Donc, c'est probablement tout ça qu'on entend. Quand la neige est plus ancienne, quand elle a commencé à se tasser, quand éventuellement elle a fondu puis elle a regelé et qu'elle est devenue beaucoup plus solide, ben quand on marche dessus, finalement, il n'y a plus grand-chose à casser. Et donc, on marche sur une neige qui fait quasiment plus de bruit. L'étape ultime étant, si elle se transforme en glace, ben là, quelque part, à part glisser dessus, on ne craint pas grand-chose et en tout cas, on n'entend pas grand-chose. Et puis, une fois qu'elle aura fondu, ce sera fini.
Ouais.
Et donc c'est toutes ces transformations de la neige qui expliquent son comportement à la fois mécanique par rapport aux avalanches, à la fois atmosphérique par rapport à son rôle d'échange entre le sol et l'atmosphère. Et ces transformations-là, incessantes, elles expliquent le comportement différent et parfois surprenant auquel on peut être confronté quand on touche la neige de près.
Je suis étonnée en vous entendant répondre à Gérard, Samuel Morin, vous êtes directeur du Centre d'études de la neige de Grenoble. Finalement, on n'emploie que le mot neige. Les Norvégiens ont 36 mots pour dire neige. Et nous, en français, on n'en a qu'un alors qu'il y a tellement de neiges différentes. C'est étonnant.
Alors, on a un terme générique en français qui s'appelle la neige pour caractériser toutes ces différentes formes d'assemblage de la glace, de l'eau liquide et de la vapeur d'eau qu'on retrouve dans le manteau neigeux. Mais les spécialistes parlent de différents types de neige. Il y a une classification internationale des types de neige. Alors il y en a même deux. Il y a la classification des types de neige pendant qu'elle tombe, avec les différents niveaux de givrage, les différents boutons de manchette. Il y a toute une poésie dans la façon dont on appelle la neige au niveau international dans le domaine de la météo. Mais il y a aussi différents noms qui sont donnés à la neige une fois qu'elle est au sol et qui résultent de cette transformation. Donc il y a la neige fraîche. Il y a ensuite ce qu'on appelle les particules reconnaissables, qui est un type de neige bien connu des transformations de la neige peu après son dépôt. Et puis, en fonction des transformations de la neige au cours du temps, on va avoir, si la neige s'humidifie par exemple, on va arriver à ce qu'on appelle le grain rond. Et puis, on a des transformations qui se font en neige sèche, donc en absence d'eau, qui vont aller vers ce qu'on appelle le grain fin. Donc, c'est un type de neige qu'on retrouve au bout de quelques jours après les précipitations. Et puis, quelque chose qui est très important quand on s'intéresse aux avalanches, c'est les types de neige qui sont rencontrés dans les manteaux neigeux, soumis à des transformations intenses qui sont liées aux conditions de température dans le manteau neigeux, qu'on appelle les faces planes, voire même les gobelets, le gif de profondeur. Tout ça, c'est des noms techniques, alors sûrement pas aussi poétiques que ceux qu'utilisent les Inuits, mais des noms qui caractérisent différents types de neige tels qu'on les rencontre sur le terrain.
Bouton de manchette, c'est marrant.
Bouton de manchette, oui, ça c'est des types de cristaux qui se forment dans l'atmosphère et qui tombent sous forme de neige ou sous l'effet des conditions de température dans le nuage et de ce que rencontrent les flocons en tombant, ça fait des croissances un peu curieuses en forme de bouton de manchette. Vous pourrez trouver sur internet des photos de boutons de manchette.
Nous avons de la chance au petit bateau, nous passons de la montagne à la... J'allais dire, oui, c'est ça, nous passons de la montagne à la mer. François Sarano est docteur en océanographie, plongeur professionnel. Il a été le conseiller scientifique du commandant Cousteau ou bien de Jacques Perrin. Son dernier livre édité chez Actes Sud s'appelle « Au nom des requins ».
Je m'appelle Nina, j'ai 5 ans et je voudrais savoir pourquoi les requins sont méchants.
Pourquoi les requins sont méchants, demande Nina François Sarano.
Non, les requins ne sont pas méchants. Parce que la méchanceté, c'est une volonté de faire mal, une volonté de blesser quelqu'un. Or, les requins, comme tous les êtres vivants, ne font que se nourrir lorsqu'ils mangent une proie. Le requin, contrairement à nous les hommes, se trompe très rarement. Il se trompe une centaine de fois par an dans le monde. Et simplement, après s'être trompé, il relâche le surfeur ou le nageur. Parce que nous ne faisons pas partie des proies des requins. Si nous étions au menu des requins, c'est tous les jours qu'il y aurait des accidents. Des dizaines d'accidents. Parce qu'il y a des milliers de moments où il y a des rencontres hommes-requins. Mais on peut comprendre que le requin se trompe de temps en temps, lorsque l'eau est trouble, lorsqu'il est dans une situation où tous ses sens ne lui permettent pas de véritablement voir qui est en face de lui. Et à ce moment-là, il peut se tromper. Le requin, contrairement à beaucoup d'animaux marins, a peur des hommes. Il s'en méfie. Et la difficulté, pour nous plongeurs, c'est justement de les approcher lorsqu'on les voit dans l'eau. Parce que très rapidement, lorsqu'il est identifié, le plongeur, il fuit. C'est toujours par méprise que l'accident arrive.
Yeah. I'm a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you.
C'est la jeune britannique Adèle, choisie Oh My God, choisie par Jean-Baptiste Audibert sur la playlist de France Inter, puisque vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 7 ans, et je voudrais savoir comment on fait la couleur noire. Au revoir.
Bonsoir Victor, comment fait-on la couleur noire? Annette Doué, vous êtes restauratrice de tableaux, vous êtes enseignante, et vous êtes experte en authenticité des matériaux de la peinture. C'est vrai qu'on se demande comment on fabrique cette couleur. J'avais envie de dire, il y a noir et noir, mais peut-être vous nous le direz.
Oui, alors exactement, il y a plusieurs noirs. Il y a les noirs qu'on trouve directement dans la nature. Le noir le plus courant, c'est celui qu'on va trouver après la carbonisation d'un matériau. Ces matériaux, ils peuvent être d'origine minérale, peuvent être d'origine animale ou encore d'origine végétale.
D'accord.
Alors, minéral, par exemple, le noir qu'on va trouver dans la terre, comme l'ardoise. Et on peut, en le broyant, obtenir un pigment qui sera pas très, très noir intense, qui sera un peu gris, qui sera peu couvrant. Dans les minéraux, c'est à peu près le seul. Et puis, il y a également les noirs animaux. Donc, d'origine animale, vous avez le noir d'os, par exemple. Alors, ce qu'on appelle le noir d'os aujourd'hui, autrefois, c'était le noir d'ivoire. Donc, c'est pas forcément l'ivoire des éléphants, heureusement pour eux, mais ça pouvait être tout ce qui était de provenance de dents ou de défense animale.
Mais c'est blanc, une dent.
Oui, mais quand on le brûle, ça se transforme en carbone. Donc, c'est ce noir de carbone qui, en fait, va être broyé et transformé en pigment noir.
Alors, des dents, des os de quoi?
Des os de...
De sèche.
Alors oui, il y a les os de sèche. Qu'était... Alors l'os de sèche qu'on a brûlé va broyer, donner un pigment. Mais vous avez le noir de sèche, qui est l'encre de sèche, qui autrefois pouvait être utilisée liquide, donc comme de l'encre pour l'écriture. Et puis quand on laisse sécher cette encre, on récupère, quand c'est devenu une poudre, le pigment, qui va devenir un noir de sèche en pigment.
Donc de l'ardoise, du charbon, des os.
Et également des végétaux.
Par exemple?
Alors les végétaux, par exemple le noir de vigne, c'est-à-dire qu'on récupère la vigne, on la fait là encore brûler, et ça donne un noir un peu bleuté.
Ouais.
Et il y a également les noirs de noyaux de pêche, qui donnaient un noir un peu plus rouge.
Alors il y a quelque chose que je trouve sidérant, Annette Doué, c'est pourquoi finalement, comment on s'est aperçu que le noyau de pêche donnait un meilleur noir que le noyau de cerise?
Alors, c'est pas une question de meilleur, c'est une question, en fait, de localisation. Autrefois, on n'allait pas chercher loin ces pigments, et surtout, on prenait les matériaux du coin. Dans le sud, où il y avait des vignes, on utilisait évidemment des pieds de vigne, et puis ensuite, dans le nord, on pouvait utiliser de l'ardoise.
On était, comme sont les locavores, on était locapeintres.
Absolument. Jusqu'au XVIe siècle, avant, on va dire, les échanges internationaux, les artistes, si on remonte à la préhistoire, les artistes, ils prenaient ce qu'ils avaient, évidemment, dans les grottes. Donc, au niveau du noir, c'était simplement le noir de charbon qu'ils trouvaient dans leur foyer. Ou pourquoi pas à proximité des volcans, après les éruptions. Mais ça, c'est le noir, on va dire, pur. Et les peintres ont toujours cherché à avoir des noirs beaucoup plus profonds. Et j'ai par exemple l'exemple du peintre Hokusai, qui est un grand artiste japonais, qui lui dit, pour avoir le noir le plus intense dans ses encres, il mélangeait un noir ancien additionné de rouge, un noir frais additionné de bleu, un noir terne additionné de blanc et un noir brillant additionné de gomme arabique. C'est-à-dire que pour lui avoir son beau noir le plus profond, il mélangeait quatre noirs. Et dans un ouvrage qui a été rédigé par M. Régnier en 1865, qui s'appelle « De la lumière et de la couleur chez les grands maîtres anciens », il écrit « Le noir le plus intense que le peintre ait à sa disposition pour imiter à peu près le noir de l'ombre absolue, c'est un mélange de deux parties d'outre-mer, l'outre-mer c'est du bleu, d'une partie de lac de Garance, qui est un rouge, et trois de bitume, à remplacer par l'oxyde de fer ou du noir de Mars ». Donc en fait, les noirs qu'on trouve, on va dire purs, les noirs de carbone, sont des noirs qui ont des caractéristiques ou de transparence ou d'opacité avec des légères teintes. Mais si on mélange d'autres couleurs, on peut obtenir des noirs beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses, qui seront parfois recherchés par les peintres.
Cette réponse intéressante me fait penser au beau roman de Griselidis Réal, Le noir est une couleur. Attention, roman pour adultes, c'est terriblement dur, surtout quand on sait qu'il est plutôt autobiographique. Dans Le Monde, dans M Le Monde, dans le supplément du samedi, pas celui d'hier ni de la semaine dernière, mais juste de la semaine d'avant, il y a un beau portrait de Griselidis Réal. Voici un livre, là, cette fois-ci, pour les jeunes. Saviez-vous que les Gallo-Romains, c'est-à-dire les Gaulois, romanisés après la conquête de la Gaule par Jules César, en 52 avant Jésus-Christ, avaient développé une médecine réputée dans l'ensemble du bassin méditerranéen? On se soignait avec de remarquables médecins et chirurgiens qui pratiquaient déjà avec succès l'opération de la cataracte, mais aussi avec les dieux guérisseurs. Par exemple, la puissante déesse gauloise Sécana était vénérée aux sources de la Seine en Bourgogne et les deux systèmes marchaient ensemble. En terre d'islam, de grands savants musulmans ont, dès le début du Moyen-Âge, soigné la folie qui fait tellement peur en surmontant les préjugés. Au 7e siècle à Fès, au Maroc, il existait une maison consacrée aux soins des maladies mentales. Le premier hôpital psychiatrique du monde a été construit en Irak, un siècle plus tard. Avicenne, le persan, autour de l'an 1000, et Averroès, l'andalou, ont étudié l'origine des maladies psychiques. Connaissez-vous la langue des signes ? Inventé par l'abbé de Lépée, ce religieux mort en 1789 a mis au point un alphabet visuel utilisant les 10 doigts et il a ouvert une école spécialisée. À la page 59 du livre « Il était une fois la différence », les archéologues racontent le handicap, édité chez Actes Sud, vous trouverez la façon d'exprimer toutes les lettres de l'alphabet avec les doigts. Podcaster ces petits bateaux, Marjorie de Voucoux, Juliette Delperroux, Noël Bréham, Stéphane Combe, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. À suivre Jérôme Garcin pour un masque et la plume spécial consacré ce soir au 32e prix des auditeurs.